Face à l'info sur la première. Face au livre.
Ce soir, on va se proposer un sujet de réflexion et une ambition gigantesque. Hein. Sauver l'école. On y met un point d'interrogation. C'est en tout cas la prudence que notre invité a prise, John Rizzo, pour titrer son livre « Sauver l'école ?». C'est publié aux éditions Caire. C'est une brique, c'est une expérience, c'est une somme d'expériences ramenées du terrain par quelqu'un qui vient, entre autres, de l'entreprise et qui a essayé de faire une immersion pour comprendre. Il nous en dira plus dans un instant. Parce que de cette immersion et de cette compréhension, il tire quelques pistes de solutions possibles à travers des cas de figure pour repenser littéralement notre école. Peut-être revenir d'ailleurs aussi sur certains paramètres qui existaient et que nous avions peut-être laissés en friche ou estompés un peu.
Pourquoi les filles, elles apprennent la même chose que les garçons?
Qu'est-ce que ça veut dire, quelque bien?
Je ne sais pas.
Après, on s'aperçoit qu'on est intelligent.
Hein? Monsieur,
pourquoi les Français sont-ils plus intelligents que les autres?
Si entre un roi et un président.
Comment?
Monsieur, est-ce qu'on peut décapiter un président?
Non.
Monsieur, pourquoi vous passez pas à apostrophe?
Où ça?
Est-ce que Astérix a existé?
Oui, bien sûr, non.
Est-ce qu'ils sont venus les Grecs? Monsieur, c'est quoi les droits de l'homme?
C'est quand on est...
Monsieur, pourquoi on va manger des yaourts fruités?
Monsieur, c'est vrai qu'avant c'était mieux.
Monsieur, c'est quoi un complexe?
Si on n'allait plus à l'école.
Si plus tard vos enfants sont des crétins, c'est à vous qu'ils le devront.
Bonsoir John Rizzo.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Merci à vous d'avoir été en défi. C'est plus qu'en face à l'info, c'est presque en défi. Vous voulez soulever une montagne incroyable, des tonnes d'experts, des tonnes de ministres, des tonnes de parlementaires, chacun à son tour, par décret qui porte leur nom. On dit qu'il faut refonder, modifier, repenser, suggérer une nouvelle école. Vous, carrément, c'est la sauver. Ça veut dire aussi qu'elle est en péril.
Oui, certainement. Là, on peut se demander... Pour revenir à la conclusion directement du livre, est-ce que l'école a vraiment besoin d'être sauvée?
Est-ce qu'il nous faut une école?
Est-ce qu'il nous faut une école déjà? Est-ce qu'elle a envie d'être sauvée? Ou est-ce que la sauver prolongerait plus son agonie avant de passer? On parlait de repenser l'école à quelque chose de repensé.
De collaboratif, par exemple.
Par exemple, oui. J'ai l'impression que le système souffre très fort, le système scolaire souffre très fort dans le monde où il est. Que les deux ne se conviennent plus très fort. Les enseignants, les élèves souffrent très fort. Les parents ne sont pas forcément très contents.
La société dit que l'école ne prépare pas bien ce qu'elle devrait préparer.
Exactement. Donc, même le monde économique, par exemple, les patrons bruxellois, on en marre qu'on leur envoie chaque année des dizaines de milliers d'employés de bureaux des filières techniques unilingues qui n'ont donc aucune chance de trouver un emploi. Alors que ce n'est pas compliqué de rendre un enfant bilingue. Par principe, je veux dire, il suffit de s'y prendre assez tôt et de la bonne manière. Enfin, tout ça est connu. J'ai l'impression que nous connaissons tous les outils pour avoir une excellente éducation, mais qu'on a terriblement du mal à les mettre en place à notre siècle.
Est-ce qu'il y a eu d'autres moments? J'imagine qu'une part de la réponse figure d'ailleurs dans la question. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments de meilleure adéquation? On a un peu le sentiment. Ou alors, est-ce que c'est une façon romantique de replonger dans sa propre enfance en se disant c'était mieux avant?
Mais l'école se pose depuis la nuit des temps la question entre le feu qu'il faut allumer ou le vase qu'il faut remplir, pour résumer. Et j'aime beaucoup l'histoire de l'école mutuelle, un peu du côté de la Révolution française, je dirais, au niveau de l'époque, où un prince avait voulu rassembler les enfants des rues pour les instruire. Mais souvent, ça coûte très cher. Et c'est l'enseignant qui coûte cher à ce moment-là. Il s'est dit, je vais mettre moins d'enseignants pour plus d'élèves. Jusqu'à un enseignant pour 100 élèves. Parfois, pour 800 élèves, on disait, mais je pense que les traces historiques parlent plutôt en moyenne d'une centaine d'élèves. Et qu'est-ce qui se passe? L'enseignant qui reçoit cette centaine d'élèves, mais qui ne sont pas du tout au même niveau ni du même âge, organise entre eux pour qu'ils se co-instruisent, si je puis dire, avec des élèves moniteurs. Tout ça est assez, d'après les écrits, très traditionnel et très structuré. On n'est pas encore dans l'éducation nouvelle. Mais c'est clair que l'enseignant ici se met clairement en retrait. Alors, ce qui est curieux quand on regarde les écrits, c'est qu'au début, il y a un engouement extraordinaire. Il y a jusqu'à 2000 écoles qui sont créées en France. Et puis après, il y a une réaction épidermique qui dit « Mais ces écoles, elles ne forment pas des bons citoyens. Elles forment des citoyens qui sont critiques envers le pouvoir en place, qui sont trop autonomes, qui sont trop individualistes, qui sont ou même trop collaboratifs pour peut-être pouvoir se liguer contre l'ordre. »
Elles ne sont pas assez directives, ces écoles.
En tout cas, les citoyens produits ne conviennent pas à l'époque qui a besoin, rappelons-nous, à la veille de la révolution industrielle, d'une armée de bras et aussi de fonctionnaires. Ne fût-ce que si on regarde les bureaux, rien n'est informatisé. Le travail est extrêmement, pas dire scribal, mais extrêmement répétitif. Il faut être obéissant. Tout ça ne fonctionne bien. En fait, on peut voir le monde à ce siècle-là comme... Je suis informaticien de formation. On peut voir ça comme une machine d'humains.
Dont les rouages doivent se huiler l'un l'autre.
Exactement. Mais alors, il faut que le bout de la chaîne réponde exactement à l'ordre qui arrive d'en haut et qui passe peut-être par 20 intermédiaires. Imaginez qu'on est en train de conquérir le monde. Et si vous voulez qu'un ordre soit exécuté en Amérique, par exemple, et qui vient de Paris, ça demande vraiment une hiérarchie et une obéissance sans faille.
L'école de l'obéissance contre l'école de l'émancipation.
Et donc, voilà, on a zappé toutes ces écoles mutuelles, on les a fermées les unes après les autres, pour revenir à un modèle qui convenait mieux à la révolution industrielle.
L'école centralisatrice.
L'école avec un maître qui impose la discipline de silence à ses élèves, qui est quelque part formateur du citoyen attendu à cette époque. Et en plus, on n'avait pas Internet au XIXe siècle. Ce qui fait que le savoir, il est où ? Il est chez l'enseignant qui le donne en parlant et les élèves s'agglutinent autour pour essayer de le percevoir. Alors forcément, les élèves qui viennent près de l'enseignant naturellement, ben, ils ont le même niveau parce qu'ils veulent le savoir qui est en train de se faire écouter à ce moment-là. Et donc, j'ai l'impression que là, les classes d'âge sont nées. On a trié les enfants par âge et l'école est devenue, j'aime pas le mot, mais ça vient bien avec la révolution industrielle, une usine où les lots d'enfants triés par âge voyage d'année en année avec des examens à la fin. Et si des enfants ne passent pas les tests finalement, parce qu'ils n'arrivent pas à suivre, bah, on les enlève comme des objets défectueux. Et ce n'est pas grave, je veux dire, l'industrie les prend très très jeunes et ils ont leur vie de citoyens du 19e siècle.
Ce qui est frappant, hein, pour avoir entendu autour de vous, dans un événement que vous avez créé, une série aussi de témoignages, c'est qu'il semble bien à l'heure actuelle que tous les acteurs, ou une grosse part hein, d'acteurs, et les acteurs, c'est au sens large de la communauté éducative, et conscience qu'il faille refaire bouger des lignes. Mais on a le sentiment que chacun a sa ligne.
Oui, et ça, c'est un gros problème. Donc, quand j'essaie de comprendre le système... Donc, d'abord, peut-être reprenons depuis le début. J'ai enseigné toute ma vie. J'enseignais des adultes toute ma vie. Et là, j'ai eu totale liberté pour essayer toutes les techniques, formules, toutes les formules que j'ai pu. Et donc, je me suis demandé à un moment donné, est-ce que ça marcherait avec des enfants ? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de formules, mais au-delà de la formule, je pense qu'il y a deux postures philosophiques possibles. Soit l'enseignant sait et organise finalement la vie de l'élève, c'est moi qui te donne la photocopie suivante, et tu ne la retournes pas avant que je te le dise. Ça peut vraiment être... J'ai vu une classe, enfin, j'ai beaucoup d'affection pour cette collègue, mais je l'entends encore dire, presque en guirlandais, mais maternellement un élève, parce qu'il avait commencé à regarder l'exercice numéro 2 qu'il était censé cacher avec sa main. Donc on est vraiment dans le contrôle collectif. Ça, c'est une philosophie. Moi, je préfère la philosophie que j'appelle, pour être vulgaire, coup de pied au cul. C'est-à-dire qu'on donne un objectif. Par exemple, avoir 80% dans telle matière, par exemple 30 verbes irréguliers en français à l'infinitif présent, pour prendre quelque chose de même très scolaire que tout le monde comprenne bien. Voilà, il faut faire 80% à un test. Ça, c'est l'objectif. Alors, comment, toi, enfant, tu vas te prendre en main pour atteindre cet objectif ? Et tu as le choix de ne rien faire. Alors, évidemment, ça doit être un vrai choix. Si on veut que le futur citoyen apprenne à se prendre en main, ben, on est obligé, au début, de lui laisser le choix de rien faire et qu'il ne fasse peut-être rien pour l'expérimenter. Et puis, il va se demander, OK, bon, je suis là le matin, qu'est-ce que je dois faire ? On ne me donne pas de photocopie, il faut que je décide, j'ai plusieurs choix. Je peux aller parler à un camarade pour me le faire expliquer ou pour faire répétiteur, peut-être, ou lire un livre, ou m'exercer silencieusement, ou regarder une vidéo que je décide moi-même d'allumer, ou peut-être aller dans un local écouter une explication collective qu'un enseignant donnerait, parce que je n'ai rien contre l'explication collective en tant que telle. Ce que je n'aime pas dans l'explication active telle qu'elle est maintenant, c'est qu'on dit à l'enfant ou au jeune, tu vas suivre celle-là, à cette heure-là, dans ce local-là, et on aura décidé pour toi.
pour vous, puisque hein, vous avez donc décidé un jour de passer à l'exercice pratique, hein, de quitter le public des enseignés adultes pour vous adresser aux enfants, et vous avez testé différentes classes d'âge, pour vous, chacun doit donc avoir cette liberté d'aller picorer, à un moment donné, en fonction de l'objectif qui lui est donné, les différentes formules possibles qui doivent coexister.
Mais si on veut que l'école soit apprendre à apprendre, ben, il faut mettre l'élève en situation, ça dépend de son niveau évidemment. Hein. Il y a des élèves qui ont extrêmement dur à se concentrer. Il y a des élèves qui ont besoin d'une grande directivité. Mais je pense qu'il faut leur donner des objectifs à très court terme, qui peut être par exemple, voilà, j'attends de toi que pour dans un quart d'heure, tu saches faire ça. Et donc l'idée c'est d'élargir ce temps. Dans une des classes que je décris dans le livre, qui est vraiment très malade, si je puis dire, j'ai constaté qu'ils ne savaient travailler qu'une demi-heure. Et puis j'allais jouer avec eux dans le terrain vague d'en face une demi-heure, puis retourner travailler une demi-heure, puis etc. Donc la demi-heure était mon échelle maximale de travail consécutif. Et je voyais bien que quand il restait que 5 minutes, ils se décourageaient pas trop parce qu'ils voyaient bien qu'il ne restait que 5 minutes et que, allez, encore 5 minutes. Mais c'est clair que l'objectif doit être d'étendre cette demi-heure à 40 minutes et puis 50 minutes. Et donc, idem, l'objectif, c'est de donner à l'élève, à l'enfant, le plus en plus d'espace par rapport à là où il en est. Parce qu'un enfant de 10 ans n'est pas un autre, et certains ont besoin de beaucoup de guides, de directives et de cadres. Mais le but, c'est de mettre ce cadre pour pouvoir le relâcher progressivement. D'autres enfants fonctionnent tout seuls. Il y a des enfants qui apprennent, quelle que soit l'école, quelle que soit la pédagogie.
Le problème alors, immédiatement, c'est qui sanctionne quoi, comment. On entend par sanctionner, évidemment, vérifier... Voilà l'acquis, alors que chacun n'arrivera pas au même point, au même moment.
Alors, dans mes classes, je proposais aux élèves de faire un test tous les jours. Donc, parfois plusieurs fois par jour, on disait, les chefs de classe, puisque moi j'en faisais le moins possible pour essayer aussi d'apprendre du leadership à certains enfants, donc c'était une classe de 4e primaire, ils disaient, voilà, qui veut faire un test F2 ? Ça correspondait à une matière.
Et
alors, 3-4 enfants se levaient et allaient faire le test. Quand ils avaient fini, ils se corrigeaient l'un l'autre, ils revenaient chez moi, et s'ils avaient 80%, ils avaient une comète, s'ils n'avaient pas 80%, ils pouvaient recommencer plus tard. Donc finalement, c'est eux, je veux que l'élève... En fait, je suis parti du constat que ces élèves ne savaient pas étudier. Ils savaient faire un devoir, c'est-à-dire arriver au bout de la photocopie, mais ils ne savaient pas se dire, maintenant j'ai assez étudié que pour penser que j'ai compris. Et donc c'est important que l'élève apprenne à comprendre lui-même quand est-ce qu'il a fini de travailler.
Il se donne à lui-même la capacité de s'auto-évaluer.
Exactement, c'est extrêmement important. Si vous donnez, par exemple, un gros syllabus à un universitaire, cet universitaire doit pouvoir évaluer assez vite est-ce que je vais y arriver dans le temps imparti et comment je vais m'y prendre.
Et ça s'apprend très jeune.
Ça s'apprend très jeune.
On se retrouve dans un instant dans la deuxième partie de cette émission pour aller plus loin. Alors, quand on veut sauver l'école... Avec tout ce qu'on a déjà dit en première partie, une école où l'élève est le centre de la préoccupation, son rythme lui est propre, sa méthode d'apprentissage lui est propre, mais le tout est d'acquérir suffisamment d'autonomie que pour, on l'a dit aussi, s'auto-évaluer. Quelle peut être, à un certain moment, la permanence de l'enseignant ? Parce qu'on pourrait se dire, il suffit d'avoir des programmes préenregistrés pour aller se tester... Sur base, voilà, ça existe. Hein. Je vais me tester à la machine et puis la machine me donnera un résultat. Et puis c'est tout, puisque le reste, je dois aller le picorer par moi-même.
Certaines matières s'y prêtent, d'autres moins. Alors je vais peut-être commencer par là. Une des matières, c'était les tables de multiplication. Je me rendais compte qu'ils ne connaissaient pas bien leurs tables de multiplication. Et j'avais dit, voilà, un jeu sur Internet s'appelle Invasion Opération. C'est une simple URL à mettre dans votre browser. Je l'aurais appris à faire ça et pouvais le faire à la maison aussi. Et j'ai dit, voilà, l'objectif, c'est de faire un score de 1500. Ça, c'est votre objectif. Vous, par la porte ou par la fenêtre, je ne considère pas que vous connaissez votre table de multiplication tant que ça ne s'est pas fait. Et ça, ça rejoint ce que vous dites. Une autre matière, beaucoup plus intéressante, je trouve, était de faire une fable. Je leur avais montré ce que c'était qu'une fable, selon moi, et j'avais donné deux contraintes, puisque la contrainte et la créativité. Il fallait des animaux et une morale. Champ libre pour le reste. Eh bien, ce fut très laborieux, et ça peut pas être automatisé. Et le résultat n'est pas très important, c'est le processus pour y arriver qui était intéressant. Donc des enfants sont venus me voir avec un bout d'histoire qui ressemblait à rien, du style « le chien va dans la forêt et il y a des arbres », point. Bon, d'accord, il y a un animal, mais...
C'est peu.
C'est peu.
Mais pour le moral, avait... c'est court.
Exactement. Et donc j'ai dit « écoute, ton histoire, je trouve qu'elle ressemble à rien, va voir chez un tel, qui, je trouve, a une meilleure histoire, peut-être qu'elle va te donner une bonne idée. Et donc, ces deux élèves travaillaient ensemble peut-être une demi-heure, et puis revenaient avec une meilleure histoire. Mais donc, je suis en tant qu'enseignant, là, plus un organisateur. Et cette classe ressemble à tout, sauf une classe de robots. Et là, je viens à ma deuxième anecdote. La première fois que j'ai fait cours sans donner d'explication collective avec une classe d'enfants, j'avais préparé très consciencieusement un dossier. Et dans ce dossier, il y avait notamment des vidéos YouTube. Donc, par exemple, supposons que nous sommes dans les additions écrites. Il y avait 5 vidéos qui expliquaient de 5 manières différentes les additions écrites avec des enseignants autres que moi, qui faisaient ça très bien. Eh bien, je m'attendais à ce que les enfants les regardent. Ils n'ont pas bien regardé, en fait. Ils ont de loin préféré s'expliquer la matière entre eux. Donc, le fait de dire aux enfants, vous devez apprendre à vous auto-évaluer, et je vous aide, je vous donne des guides, je ne suis quand même pas absent, ne va pas forcément faire une classe de petits robots individualistes. Au contraire, il y a une cohésion sociale extraordinaire qui s'est créée du fait de cet enseignement mutuel, où les plus faibles, les plus lents ont dû aller vers les plus rapides, alors que ce n'est pas souvent leurs camarades de jeu dans la cour de récréation, et tisser des nouvelles relations avec eux. Et quelle joie collective quand les plus faibles atteignaient leur objectif d'avoir 80% de cette matière-là. Ils retournaient chez leur mentor se faire féliciter. Et donc, pour moi, la classe de robot, c'est qu'on oblige 25 élèves à être assis pendant une heure, assis et tais-toi, avec un prof porte-close. Ça, c'est plus l'école usine de robots, si vous voulez. Pour moi, la classe vivante, ce sont des élèves qui s'entreprennent comme un groupe qui a l'air de faire un peu n'importe quoi, mais qui sait exactement ce qu'il fait parce que chacun a l'habitude, depuis qu'il est en maternelle, de s'entreprendre et d'atteindre ses objectifs.
Alors, ça rejoint quand même une question fondamentale sur ce qu'on appelle peut-être les compétences de base, c'est-à-dire que pour pouvoir effectivement s'émuler l'un l'autre, pour pouvoir s'émuler soi-même, il faut quand même travailler sur une matière ou une base. On ne peut pas établir les multiplications si on n'a pas appris les chiffres. Bref, il y a quand même un minimum de base. Ce minimum de base, il est ex-cathédra ?
Pas nécessairement. Je pense qu'il faut tout. Par exemple, je trouve que le discours ex-cathédra est extrêmement formatif. Quand on écoute un adulte établir un raisonnement logique, une belle éloquence par exemple, ça peut être très intéressant. Et les enseignants eux-mêmes sont différents. Si on accepte que les élèves sont différents et doivent apprendre de manière différente, les enseignants sont différents et doivent pouvoir enseigner de manière différente. On tirera le meilleur de nos enseignants actuels, ils sont quand même 100 000, que si on leur permet de briller et de se frotter les uns les autres aux techniques qu'ils affectionnent le plus.
Les inspecteurs ne vont pas aimer du tout votre discours.
Peut-être pas, mais supposons que l'architecture le permette. Un enseignant sera peut-être brillant à faire un cours d'histoire face à 300 élèves. Et ça va être passionnant, ça va durer 2 heures, ils vont être accrochés à sa parole extraordinaire. Un autre sera peut-être beaucoup plus brillant à réconforter un élève qui est en grande difficulté psychosociale, par exemple. Et ce n'est pas les mêmes compétences d'enseignants. Alors si on dit à tous les enseignants, voilà, je vous enferme chacun dans une classe avec 25 élèves, débrouillez-vous. Bon, on les enferme un petit peu dans un système qui les oblige à avoir une espèce de compétence standard.
Oui, ça, ce standard, vous n'aimez pas.
Nous sommes êtres humains différents. Et ne fût-ce qu'au niveau des enfants, l'article 29 de la Convention des droits de l'enfant nous demande bien de développer au maximum les dons, les attitudes des enfants dans toute la mesure de leur potentialité. Or, je ne vois pas comment on fait ça si on dit que tous les enfants de 10 ans doivent suivre le même cours et le même examen en même temps.
Alors, on comprend, on vous accompagne dans l'idée auto-évaluation, chacun un peu à son rythme finalement. On peut passer à l'exercice 2 même avant que le maître ne l'ait dit, si on a brillamment acquis les bases pour pouvoir le faire sans souci. L'autre mettra peut-être plus de temps et stationnera sur le 1. Est-ce qu'on fixe, oui, vous nous l'avez dit, des objectifs ? C'est clair. Ça veut dire alors que la disponibilité sur le savoir acquis ne viendra pas au même âge pour tous. Donc certains seront disponibles avec tout le potentiel à 15 ans et d'autres à 25.
Pourquoi pas ? Ce sont des enfants, des êtres humains, pas des machines. Soit on est dans un monde où on fixe la vitesse. On dit voilà, année 1, année 2, heure 1, heure 2, et le temps avance. La contrainte, c'est de venir mettre son derrière sur une chaise à telle heure et écouter telle matière. Et alors, le niveau varie. Certains obtiennent 40%, d'autres 90%. Certains s'ennuient, d'autres rêvassent parce qu'ils sont de toute façon largués, d'autres suivent pas mal.
Et certains, on l'a entendu d'ailleurs en témoignage aussi, imaginent qu'un échec qui leur colle à la peau déteint ou criminalise tout le reste de leur parcours qui peut être brillant.
Exactement. Donc soit on fixe la vitesse et le niveau variable, soit on fait l'inverse. Et moi, je proposerais plutôt de faire l'inverse. On fixe le niveau, vous devez apprendre que vous devez viser 80%. Ça, c'est votre nouveau niveau d'exigence. Et vous ne lâchez pas la grappe tant que vous n'avez pas 80%. Et la vitesse varie. Parce qu'on ne peut pas tirer sur les enfants. Par exemple, j'ai trois cas que j'aime bien citer, qui sont très exemplatifs d'une classe. Il y a une jeune fille qui est très lente, mais qui sait se mettre au travail de manière extrêmement studieuse.
Continue, obstinée.
Vraiment obstinée, mais elle a un gros retard scolaire parce qu'elle est vraiment très très lente. Et moi, j'aime bien la récompenser pour ses progrès. Il y a un enfant qui est extrêmement rapide, mais il ne sait pas se mettre au travail. Moi, j'aime bien l'encadrer pour qu'il arrive à se mettre au travail. C'est tout à fait différent. La première n'a pas besoin de moi, à la limite. Elle avance très bien toute seule avec le soutien académique, je dirais, au niveau des matières de ses camarades.
Elle a besoin de votre confiance.
Elle l'a déjà.
Oui.
De temps en temps, je mets une petite table dans le dos, mais de toute façon, elle avance et elle voit qu'elle progresse. L'autre, par contre, il a besoin d'une présence extrêmement forte. Sinon, il ne va rien faire. Le troisième, qui est à la fois studieux et rapide, il n'a pas besoin de moi non plus. Pourquoi est-ce que le contribuable perdrait du temps de salaire enseignant, qui est quand même 87% du coût de la masse financière qu'on y consacre, pourquoi perdre du temps de salaire sur cet élève rapide qui avance tout seul, alors qu'il a besoin de personne? Et alors que l'autre, qui n'arrive pas à tenir en place, a peut-être besoin d'une équipe pluridisciplinaire et qui arrive justement à lui apprendre ça.
C'est de la pédagogie différenciée, John Rizzo.
Oui, mais ce que je trouve malhonnête, c'est qu'on demande par exemple aux enseignants de première secondaire de faire de la pédagogie différenciée avec un public extrêmement hétérogène, jusque-là tout va bien, mais avec un objectif commun à la fin de l'année. Vous devez tous réussir le même examen, vous devez tous venir à la même heure, faire la même chose. Je trouve ça extrêmement malhonnête vis-à-vis des enseignants.
Chacun doit pouvoir calculer son année académique en fonction de ses potentialités.
Avec l'accord de l'enseignant, avec l'accord des parents. Ce n'est pas l'idée de faire une école où chacun fait ce qu'il veut, avance à sa vitesse, tiens, je me sens un peu moins en forme, je vais aller moins vite. Je suis d'une exigence crasse dans le livre, on le voit très bien.
C'est pas sévère à certains égards.
Oui, certainement. Je ne supporte pas qu'il y ait du talent qui soit gâché.
Ouais. La dernière question, c'est la question qui fâche. Ça coûte combien?
C'est beaucoup moins cher, en fait, que le système actuel.
Sûr?
Mais disons que si l'école mutuelle fonctionnait avec un enseignant pour 100 élèves qui venaient des rues, qui n'était pas facile, soyons clairs, je pense qu'avec le même nombre d'enseignants actuels, c'est-à-dire ça dépend des niveaux, un enseignant pour 10 élèves, on va dire, on devrait largement s'en sortir, vous croyez pas?
En tout cas, la question est posée, mérite de l'être. Alors, il y a de quoi réfléchir, parce que dans votre livre donc, d'expérience, ce sont vraiment aussi des cas concrets, des cas pratiques que vous décortiquez pour alimenter, et encore bien des idées que nous, on n'a pas eu le temps d'aborder. C'est donc « Sauver l'école », point d'interrogation. C'est chez Kerr Edition, signé John Rizzo. Voilà, d'autres méthodes pour appréhender l'avenir de l'école. Merci.
Merci à vous.
Dans notre émission de ce soir, il y avait lieu aussi de débriefer ce que nous venons d'entendre avec John Rizzo en nous confrontant à l'analyse, à la réflexion de quelqu'un, d'un expert qui longtemps a plongé au cœur même de l'enseignement et puis l'a politiquement accompagné de ses réflexions et en est resté un observateur. Je veux parler de Jacques Lysenborx. Bonsoir Jacques Lysenborx.
Monsieur Kakelberg.
Alors, j'ai sous les yeux, en 2008, un article qui concernait encore votre livre « École, notre affaire à tous ». On sait depuis combien de temps on songe à la réforme scolaire et pourtant une récente étude McKinsey nous dit que l'on a consacré près de 2/3 des réformes de l'enseignement à vérifier ou à restructurer des textes plutôt que les optiques, le fond et la pédagogie. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Pour une fois, je ne serais pas loin de penser la même chose, même si je me méfie grandement des études McKinsey. Mais c'est vrai que ça fait 50 ans que je suis les politiques d'enseignement, 30 ans en étant plongé dedans et 20 ans en étant davantage observateur. Et c'est évidemment désespérant de voir à quel point l'immobilisme l'emporte.
Vous avez vous-même, en tant qu'enseignant et puis responsable, connu divers publics. Je veux dire, de Wavre au Marolles, vous n'avez pas participé au même type de public scolaire, même si forcément l'école publique doit réfléchir à donner une égalité des chances pour tous. Est-ce que l'école, tout d'abord, est encore adaptée au XXIe siècle?
C'est-à-dire, c'est toujours difficile aujourd'hui de parler de l'école chez nous, parce qu'on sait que le marché scolaire fait que des écoles sont hélas très très différentes les unes des autres. Donc au risque de généraliser un peu, je dirais non, la forme scolaire n'est plus du tout adaptée aux exigences contemporaines, qu'elles viennent de la société, qu'elles viennent des entreprises d'économie sociale ou qu'elles viennent d'autres entreprises. Nous avons hérité et nous maintenons une structure scolaire qui date de plus de 2 siècles.
Oui, à ce propos, dans sa réflexion, dans son livre, dans ses propositions, Jean Rizot nous dit qu'il faudrait bousculer les cadres jusqu'au point même, peut-être que c'est l'école en tant que telle qu'il faudrait revoir comme concept. Est-ce qu'il faut, comme on le préconise parfois dans certains pays nordiques, apprendre chacun à son rythme en fonction de ses compétences et reconnaître que la réussite ou l'hypercompétence dans un secteur manuel vaut bien, dans une même classe d'ailleurs, l'hypercompétence dans un secteur scientifique par exemple?
Mais là vous posez plusieurs questions en même temps, donc je pense qu'il faut à tout prix se battre pour ce que certains appellent une école commune, alors que pour le moment, je vous l'ai dit, nous n'avons plus d'école commune, nous avons des écoles ghetto, que ce soit des écoles ghetto pour riches ou des écoles ghetto pour pauvres, nous avons des écoles, heureusement, à pédagogie active, dynamique, nous avons à côté de l'école toute une série de systèmes privés qui se développent. Donc l'école comme école commune n'existe presque plus et je pense que la vraie bataille en ce qui me concerne, c'est d'essayer de dégager des perspectives pour une école réellement non seulement ouverte à tous, mais où tous et en particulier les enfants des milieux défavorisés réussissent. Ce qui ne ramène pas pour moi au concept d'égalité des chances parce qu'on sait que par rapport à la course scolaire, il y a inégalité des chances. Et donc, il faut absolument partir de là. Il faut concevoir dès l'école maternelle des dispositifs qui permettent aux enfants des milieux populaires, aux enfants issus des immigrations, d'accéder au savoir, effectivement, à leur rythme, mais pour arriver au même niveau. Et donc, il faut égalité des résultats. Pas égalité des chances, mais égalité des résultats.
Lorsque l'on voit les sommes consacrées aussi à la réforme, à l'accompagnement ou tout simplement investies, parfois disent certains à fond perdu dans l'enseignement en Belgique, nous sommes loin d'être les plus performants en termes de ratio investissement-résultat.
Tout à fait. Mais je pense que donc il y a deux, en ce qui me concerne, deux axes que je privilégie. C'est d'une part l'organisation du système scolaire. Le système lui-même est un système ségrégatif, élitiste. Et donc il y a d'autres systèmes qui fonctionnent beaucoup mieux. Et puis il y a la formation des enseignants. Loin de moi de rejeter la responsabilité sur les enseignants, leur formation telle qu'elle est conçue aujourd'hui, hélas la réforme de Marcoux n'annonce rien de sensationnel, la formation ne prépare pas au métier tel qu'il faut le concevoir au XXIe siècle.
Oui, à ce propos, vous avez vous-même été, donc je le rappelle, enseignant, directeur, sénateur, formateur. Est-ce que, de votre expérience politique, le politique peut véritablement peser dans ce débat?
Moi, je pense que oui. L'exemple des pays où le système scolaire a été profondément transformé indique que des décisions politiques s'imposent. Par exemple, la prolongation du tronc commun, par exemple, une révision profonde des programmes. Nos programmes sont encyclopédiques. On privilégie la quantité sur la qualité. Et ça, ce sont des décisions politiques. Et il faut oser, le politique doit oser affronter un conservatisme profond et dans l'opinion publique et dans une partie du monde enseignant. Donc je pense que le politique a vraiment un rôle décisif à jouer. Je ne pense pas personnellement que ce soit la manière dont le pacte d'excellence est engagé qui va nous permettre d'y arriver. Mais donc il n'y a pas que le monde politique, il y a effectivement les travailleurs de l'enseignement et il y a, je le répète, et pour moi c'est très important, vous avez rappelé le titre de mon livre « École, notre affaire à tous », il y a un travail profond à faire de réflexion dans la société avec tous les citoyens sur l'école et à ce titre, le service public de l'audiovisuel ne remplit pas ses missions.
Vous êtes donc critique, non seulement sur l'état général, mais sur l'investissement général des citoyens à l'égard de leur école. Parce que, vous le dites, il n'y a pas que les politiques.
Non, là je crois vraiment que nous sommes un des pays les plus pauvres en la matière. La réflexion sur l'école, quand on entend dans les trains, dans les stades de football, si on en parle un peu partout, quand on parle de l'école, on a de la part de bon nombre de citoyens des images qu'on ne peut pas leur reprocher parce qu'il n'y a pas de débat public. Mais donc ce sont des images très très traditionnelle et que tout renforce quand on voit le succès du certificat d'études de base, quand on voit que tous les journaux publient les épreuves des années précédentes, que ça entraîne dans les écoles un espèce de bachotage. On reprend avec les élèves de 6e primaire les épreuves des années précédentes, etc. Donc on est sous une pression, et le public est sous cette pression, et les enseignants sont sous cette pression, et d'où la nécessité d'un débat vraiment en profondeur qui remette en cause une série de stéréotypes sur la soi-disant bonne école.
Est-ce qu'il reste encore un moyen disponible pour attirer les meilleurs à l'école ? Et je ne parle pas que des élèves, évidemment, je parle aussi des enseignants ou de ceux qui pourraient venir n'ayant probablement pas la formation pédagogique de base, mais en l'acquérant, participer sur base de leurs acquis professionnels à la formation des jeunes.
Donc je pense que là, vous touchez du doigt un des problèmes majeurs, c'est d'une part celui du recrutement des enseignants. C'est vrai que c'est un métier qui ne fait plus rêver et qui n'attire pas suffisamment les jeunes innovateurs. Je dirais qu'il faut des jeunes innovateurs, des jeunes qui ont une réflexion sur la société et qui se rendent compte que l'école a un rôle majeur à jouer. Et ce rôle majeur, c'est un peu celui de la médecine par rapport aux malades. C'est d'amener tous les élèves à réussir, c'est-à-dire à aimer à apprendre, à avoir le goût d'apprendre, le plaisir d'apprendre. Donc il y a un problème de recrutement à la base chez les jeunes. Et il y a aussi, je pense, effectivement, un problème d'ouverture. Je crois que ça fait beaucoup de bien à l'école de voir arriver ce qui est quand même plus le cas aujourd'hui qu'hier, des gens qui ont déjà une expérience professionnelle, qui ont déjà vécu dans d'autres secteurs et qui peuvent redynamiser un peu les communautés scolaires, pour autant qu'elles soient ouvertes à la nouveauté, ce qui est le cas de certaines d'entre elles, mais pas de toutes.
Je reviendrai en dernier point encore sur quelque chose que vous abordiez tout à l'heure. Vous êtes critique à l'entame de cette nouvelle année scolaire sur ce que l'on a appelé ce pacte d'excellence mené par Joël Milquet.
Mais le pacte d'excellence est une opération, comme moi j'en ai vu au moins une demi-douzaine tout au long de ma carrière, c'est remettre les mêmes autour des tables, c'est sûrement rédiger de très beaux textes, je ne doute pas un instant que les textes que j'ai reçus, mais pas encore entièrement lus, soient des textes de qualité, mais ça ne remettra pas fondamentalement en cause la forme scolaire habituelle, et des tares de cette conception, c'est que c'est un ministre de l'enseignement obligatoire qui lance un dossier, alors que une des clés du dossier se trouve dans la formation des enseignants, c'est-à-dire chez le ministre de l'enseignement supérieur. Et donc, une fois de plus, on touche à une de ces distinctions ou séparations débiles en Belgique pour une petite communauté comme la communauté française. Nous avons deux ministres, même trois ministres d'une certaine manière de l'éducation. Et donc, il n'y a pas de cohérence et je n'en attends rien.
Merci pour votre propos très libre et votre analyse empreinte de lucidité. Jacques Lisenborgs, on reviendra certainement dans les jours et semaines qui viennent, rentrée scolaire oblige, sur ce dossier. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour comparer ce que l'enceinte politique rapportera à ce propos. Pour ce qu'il en est d'aujourd'hui, en tout cas, nous en resterons là. Dans quelques instants, la suite de la soirée avec de l'Inforoute et puis le journal. Restez bien à l'écoute de La Première.
Retrouvez Face à l'Info tous les jours de la semaine de 18h30 à 19h.